est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir à vous qui nous rejoignez et bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À mes côtés pour présenter cette édition, à la une, un accord historique signé à Washington entre Israël, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis. Un accord signé sous l'œil de Donald Trump qui se veut faiseur de paix. On y revient dans un instant.
Et puis Alexei Navalny donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. L'opposant russe a pu respirer toute la journée sans assistance. Moscou nie toujours l'avoir empoisonné.
Enfin, Lionel Messi, parmi les sportifs les mieux payés au monde, le footballeur de Barcelone entre dans le classement des 10 athlètes les plus riches de la planète. Un classement établi par le magazine américain Forbes.
Le journal, en français facile.
C'est la naissance d'un nouveau Moyen-Orient. Les mots sont ceux de Donald Trump pour décrire l'accord signé aujourd'hui à la Maison-Blanche.
Et un accord entre les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Israël. Un accord qui peut, affirme de son côté Benjamin Netanyahou, mettre fin au conflit israélo-arabe. C'est en tout cas le premier accord de normalisation des relations entre l'État hébreu et un pays arabe depuis un quart de siècle. Les précisions de Loubna Anaki.
La cérémonie a eu lieu en grande pompe sur la grande pelouse de la Maison Blanche décorée des drapeaux des trois pays invités et du drapeau américain. Donald Trump s'est félicité d'avoir réussi à négocier ces accords. Le président américain parle d'un moment incroyable pour le monde, d'un moment important pour la paix. Les Émirats Arabes Unis et Bahreïn deviennent officiellement les troisième et quatrième pays arabes à signer des accords de normalisation avec Israël. Le début d'une nouvelle ère, a déclaré Benjamin Netanyahou, qui a adressé un « que la paix soit avec vous » en arabe à tous les pays qui, je cite, s'engageraient sur le même chemin pour la paix dans la région. Des négociations en ce sens seraient d'ailleurs en cours et en bonne voie, en croire Donald Trump, qui affirme que 5 à 6 autres pays arabes seraient prêts à signer des accords similaires très bientôt. S'ils ont eux aussi salué le rôle joué par l'administration Trump dans ces accords, les ministres des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont insisté sur le fait que ces accords étaient un premier pas vers une paix dans la région, mais que cette paix ne pouvait être durable qu'avec une solution à deux États entre Israël et la Palestine. Israël s'est en effet engagé à suspendre son annexion des territoires palestiniens, mais on ignore encore le détail exact des accords signés aujourd'hui, dont le contenu ne sera rendu public qu'à la fin de la cérémonie. Loubna Anaki, New York, RFI.
Les réponses ce soir du président palestinien Mahmoud Abbas à cet accord, il n'y aura aucune paix au Proche-Orient sans la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Fin de citation.
L'actualité de ce mardi dans le monde, c'est aussi cette réunion au Ghana. Réunion entre le chef de la junte militaire malienne, Assimi Goïta, et les dirigeants de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Et un mini-sommet qui s'est achevé en fin de journée. Les 9 chefs d'État qui étaient présents ont exigé que la junte, c'est-à-dire le groupe de militaires qui a poussé l'ancien président Keïta à la démission cet été, que la junte donc nomme un président et un premier ministre civil avant la levée des sanctions.
Et toujours sur le continent africain, Guillaume Soro, ex-premier ministre, ex-chef rebelle, doit pouvoir se présenter à la présidentielle de Côte d'Ivoire le 31 octobre prochain.
Et c'est la demande formulée aujourd'hui par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sa candidature a été rejetée hier par le Conseil constitutionnel ivoirien, tout comme celle de Laurent Gbagbo, tous deux condamnés par la justice ivoirienne.
Et venons-en maintenant au dossier Alexei Navalny. Une semaine après l'annonce de sa sortie du coma, l'opposant russe donne de ses nouvelles.
Alexei Navalny, victime, disent Paris et Berlin, d'une tentative d'empoisonnement le mois dernier en Sibérie, ce que les autorités russes continuent de nier. Hier, ses médecins faisaient savoir qu'il avait pu quitter son lit. Eh bien aujourd'hui, c'est l'intéressé lui-même qui partage une photo sur les réseaux sociaux. Anastasia Becchio.
À peine débarrassé de son respirateur artificiel, Alexei Navalny renoue avec ses habitudes et son ton enjoué. « Salut, c'est Navalny », écrit-il sous une photo sur Instagram où il compte plus d'1,5 million d'abonnés. L'opposant apparaît assis sur son lit d'hôpital, entouré de son épouse et de ses deux enfants. « Je ne peux toujours pas faire grand-chose, mais hier j'ai pu respirer toute la journée, seul, sans assistance », poursuit-il, avant de renouer avec son ton ironique. « Respirer est un processus incroyable, sous-estimé par beaucoup. Je le recommande. » Le Kremlin continue de douter de la thèse de l'empoisonnement. d'emprisonnement et réclame à l'Allemagne l'accès au dossier médical. Interrogé par des journalistes, le porte-parole de Vladimir Poutine a affirmé qu'il n'était pas en mesure de suivre l'évolution de l'état de santé de Navalny. Les observateurs avisés ont noté que pour la première fois, Dmitri Peskov prononçait le nom de famille de l'opposant, qu'il se bornait jusque-là à désigner comme le patient berlinois ou le citoyen russe. Un citoyen qui n'a pas l'intention de s'établir en Allemagne. Citant un responsable des services de sécurité allemand, le New York Times affirme qu'Alexei Navalny compte regagner la Russie dès qu'il sera rétabli. Aucune autre option n'a jamais été envisagée, a confirmé Kira Yarmish, la porte-parole de l'opposant.
Anastasia Becchio. Et puis en France, on a des nouvelles, de bonnes nouvelles, des nouvelles rassurantes de Valérie Giscard d'Estaing.
Et l'ancien président âgé de 94 ans, hospitalisé hier à Paris, se sent bien malgré une légère infection au poumon. C'est ce qu'indique son entourage qui précise que les médecins ont écarté une infection au coronavirus.
Le Covid-19 et la courbe des contaminations qui continue de monter, près de 8000 nouveaux cas ces dernières 24 heures en France.
Et à ce sujet, le Conseil des ministres examinera demain le projet de loi prolongeant jusqu'au 31 mars prochain la possibilité de restreindre rassemblements et déplacements en raison donc du coronavirus. La date butoir était initialement fixée au 30 octobre, Zéphirin.
Et puis, toujours à propos de ce nouveau coronavirus, on se rend maintenant en Indonésie où la pandémie prend de court les autorités.
En tout cas, les médecins qui peinent à répondre à l'afflux de patients. Les services d'obsèques également, avec des cimetières bientôt saturés à Jakarta. Les forces de l'ordre prennent aussi la crise de plein fouet. Et pour faire respecter les consignes sanitaires, elles ont décidé de demander leur aide au chef de gang. Les explications de notre correspondante en Asie du Sud-Est, Gabrielle Maréchaux.
C'est une mesure controversée et ce n'est pas la première. Après avoir forcé des patients ne portant pas de masque à s'allonger quelques instants dans un cercueil, après avoir exigé des Indonésiens ne respectant pas les mesures anti-Covid de creuser les tombes de leurs concitoyens morts de cette maladie, la police indonésienne doit désormais défendre son idée de solliciter l'aide des chefs de gang pour aider à respecter les gestes barrières. Cette initiative part d'un constat alarmant, s'est défendu le chef adjoint de la police nationale. Les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses pour s'assurer du bon respect des règles dans le quatrième pays le plus peuplé au monde, avant d'ajouter que les gangs bénéficiaient déjà d'une autorité dans la gestion de certains lieux comme les marchés traditionnels ou les parkings. Il a enfin rappelé que d'autres groupes étaient également sollicités comme les clubs de moto, des arguments qui ont froissé notamment les commerçants de Jakarta qui auraient préféré que la police les choisisse ou bien fasse appel aux scouts. Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Il y a quelques semaines, c'était ces envies d'ailleurs qui faisaient la une des journaux sportifs. Aujourd'hui, c'est dans les pages économiques que s'invite Lionel Messi.
Et le footballeur de Barcelone qui a finalement choisi de rester un an de plus dans le club qui l'a fait star, rejoint en effet le classement des 10 sportifs les plus riches de la planète. C'est ce que révèle cette semaine le magazine américain Forbes, Ariane Gaffuri.
Il sera carrément le joueur de football le mieux payé au monde en 2020. Lionel Messi a empoché 126 millions de dollars, dont 92 millions en salaire pour la saison 2020-2021 et 34 millions en partenariat et autres gros contrats de sponsoring. L'attaquant argentin du FC Barcelone devient le quatrième sportif à rejoindre le club fermé des milliardaires après le golfeur Tiger Woods, l'ancien boxeur Floyd Mayweather, la légende du basket Michael Jordan et Ronaldo. L'attaquant de la Juventus de Turin empoche, lui, cette année 9 millions de dollars de moins que Lionel Messi. Neymar, l'attaquant brésilien du PSG, arrive en troisième place avec au total 96 millions de dollars. Juste derrière, il y a le Français Kylian Mbappé, également attaquant au PSG avec 42 millions de dollars de revenus au total. Paul Pogba et Antoine Griezmann figurent aussi dans ce classement. Ce top 10 mondial, ce sont en tout 570 millions de dollars de revenus, soit une hausse de 11% malgré les conséquences du coronavirus dans le monde sportif.
Ariane Gaffuri, et puis du sport, toujours mes côtés compétition avec la 16e étape du Tour de France, remportée par l'Allemand Lennard Kamna sur les hauteurs de Villard-de-Lans. Pas de changement au classement général, Primoz Roglic est toujours en jaune. Demain, le peloton reste dans les Alpes avec une 17e étape entre Grenoble et Méribel. RFI, il est 22h10. Ici à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi et de votre fidélité à la Radio du Monde.
TV5 Monde.